Avec notre invité ce soir, Thierry de Montbrial, nous allons évoquer le fameux rapport Ramsès, ce rapport annuel qui, avec toutes les troupes de l'Institut français des relations internationales, essaye de découvrir ce qu'étaient les perspectives immédiates de l'année clôturée et les grandes tendances de l'année qui s'ouvre. Le rapport Ramsès 21 est riche, bien sûr, de ces perspectives que nous évoquons au bout du jour.
La première,
19h-20h,
au bout du jour,
Eddie Kackelbergs.
Bonsoir Thierry de Montbrial.
Bonsoir.
Est-ce que ce qui nous arrive par la pandémie est aussi très révélateur d'un monde qui a mis le climat, l'écologie à mal?
Je ne crois pas que quiconque ait démontré que cette pandémie de Covid-19 soit liée à un changement climatique. C'est un phénomène qui aurait certainement pu se produire indépendamment de cela. En revanche, je crois que c'est lié psychologiquement et politiquement, parce que nous savons maintenant à coup sûr que le climat est en train de changer, qu'il changera d'une manière sévère, quelles que soient les décisions prises pour lutter contre. Et nous savons aussi que le changement climatique va entraîner un certain nombre d'autres changements dans l'écosystème et en particulier d'ordre sanitaire. Donc nous savons maintenant que d'autres pandémies sont possibles. On avait perdu complètement l'idée qu'une telle chose puisse se passer. Et donc, en effet, psychologiquement et politiquement, les deux sujets sont liés.
Ce que l'on vérifie aussi ici avec la Covid-19, c'est que la mondialisation telle que nous l'avions vécue et pensée jusqu'ici a sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive.
Oui, remarquez que il y a des gens, je me permets de me situer dans cette catégorie, qui pensent depuis très longtemps, que la mondialisation sans gouvernance appropriée peut conduire à des désastres. J'ai moi-même lancé en 2008 une grande conférence internationale qui s'appelle la World Policy Conference, qui se réunit tous les ans dans des pays variés et qui est fondée sur cette idée que la mondialisation heureuse est un mythe. Parce que qu'est-ce que c'est que la mondialisation? C'est un accroissement non seulement quantitatif, mais qualitatif, un changement qualitatif dans l'interdépendance, et une interdépendance qui n'est pas maîtrisée. On a déjà vu avec 2007-2008 que les choses n'étaient pas maîtrisées dans l'ordre monétaire. On a vu avec 2011 et ses suites que dans l'ordre politique, avec les illusions du printemps arabe, le moindre incident quelque part pouvait produire des catastrophes ailleurs. C'est l'effet papillon, le célèbre effet papillon, et nous voyons maintenant que cette pandémie qui l'abstracto était parfaitement concevable, et beaucoup de gens, d'ailleurs, y avaient songé. Bill Gates en avait parlé, je crois, en 2015, et ainsi de suite, mais nous étions totalement non préparés à cela. Voilà. Par conséquent, la mondialisation en tant qu'accroissement de plus en plus grand, de plus en plus large et de plus en plus non maîtrisé de l'interdépendance ne peut pas durer, sauf si on arrive à mettre en place des méthodes sérieuses de gouvernance. Alors la question se posait déjà pour le climat, elle se pose maintenant d'une manière irréversible pour la santé.
Oui, à cette question qui gouverne pour l'instant, on peut dire en tout cas au niveau général et mondialisé, personne. Donc c'est aussi souligner en creux ou en fort la faillite d'organiser internationaux comme l'Organisation mondiale de la santé, voire même peut-être plus l'illusion que l'ONU pouvait offrir d'une tentative de gouvernement mondialisé.
Alors, je crois d'abord que l'ONU n'a jamais été pensée comme un gouvernement mondial. Le gouvernement mondial est un mythe. C'est un mythe ancien d'ailleurs, mais c'est un mythe. D'ailleurs, si on a inventé le mot de gouvernance plutôt que celui de gouvernement, c'est précisément pour cette raison, parce que la notion de gouvernement implique une idée hiérarchique, si vous voulez. Il y a un chef de gouvernement, etc. Dans la gouvernance, on pense à des modes de régulation qui sont beaucoup plus souples, un peu comme les régulations de réseau, si vous voulez. Encore faut-il que ces mécanismes existent. Alors vous dites, mettons l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a failli ou d'autres organisations ont failli. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se présenter le problème en ces termes, parce que l'OMS, prenons l'OMS, reflète aussi ce que les gouvernements veulent en faire. Or, pour qu'une organisation mondiale de la santé soit efficace, il faut qu'elle ait des pouvoirs. Il faut qu'elle ait des pouvoirs et des pouvoirs, j'ai envie de dire, intrusifs, que les gouvernements refusent. D'une manière générale, par exemple, la question de savoir quand exactement la pandémie présente a commencé et est-ce que les autorités chinoises ont caché ce qui se passait, etc., etc., etc. Tout ça renvoie à la capacité des organisations internationales, si vous voulez, du système de l'ONU au sens large, d'aller s'immiscer dans les affaires intérieures des autres. Et ça, les gouvernements s'y refusent, d'une manière générale, tous. Et bien sûr, des gouvernements comme le gouvernement chinois, peut-être encore un peu plus que les autres, mais les États-Unis, c'est pareil, et ainsi de suite. Donc, les organisations mondiales ou les organisations internationales ne font que refléter ce que veulent en faire les États. Et je crois que, pour le moment encore, les États ne sont pas disposés à abandonner certains de leurs pouvoirs ou à donner des droits de regard à des organisations qu'ils ne maîtrisent pas. Ça, c'est un problème très sérieux et qui me fait penser, pour ce qui me concerne, aux accords de désarmement, aux accords de la maîtrise, ce qu'on appelait la maîtrise des armements pendant la période de la guerre froide. C'est-à-dire qu'il a fallu très, très lente et progressive éducation, si je puis dire, pour que les États-Unis et l'Union soviétique apprennent à coopérer ensemble avec des droits de regard réciproques pour limiter certains types de catastrophes nucléaires en particulier.
Sur les chapitres santé et climat que nous évoquons, Thierry de Montbriel, on constate avec force que l'idée même de transversalité des dossiers et de maîtrise transversale sont absentes de nos modes de gouvernance depuis longtemps.
Oui, depuis toujours. Alors, il faut voir que la condition humaine étant ce qu'elle est, en général, même quand on a prévu, quand certains ont prévu ou anticipé certains types de catastrophes, on n'agit pas beaucoup avant que la catastrophe ne se soit effectivement produite. La nature humaine est ainsi faite. Je répète que, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, l'idée qu'une pandémie, une vraie pandémie, pouvait surgir à n'importe quel moment, cette idée-là était plus que dans l'air. Mais quelque chose comme le Covid ou la Covid-19 n'a pas été vécu par le monde depuis au moins la fameuse grippe espagnole. D'ailleurs, la grippe espagnole n'est pas la véritable cause. Des millions de personnes qui sont mortes de la grippe espagnole n'étaient pas tellement, d'ailleurs, la grippe elle-même, c'était des effets secondaires, mais c'est une autre question. C'était avant la découverte de la pénicilline. Donc maintenant, à cause de cette catastrophe qui a eu lieu et qui a toujours lieu, et à cause de ces ravages de tous ordres, on va être obligé de faire en sorte de s'organiser pour qu'une autre pandémie de ce type ne puisse pas avoir les mêmes effets. Alors, remarquez que la Covid-19 n'est certainement pas la pire qu'on aurait pu imaginer, parce qu'elle est extrêmement contagieuse, c'est un virus qui est extrêmement contagieux, mais très peu létal finalement comparé à d'autres. Mais imaginez ce que serait une pandémie avec un virus qui serait à la fois aussi contagieux et beaucoup plus létal. Et ça voudrait dire qu'on n'aurait pas 50 000 morts en France, mais on en aurait peut-être déjà 4 ou 500 000. Et ça peut se produire. Par conséquent, nous avons appris maintenant qu'il est vital pour le monde entier, aucun État ne peut se protéger tout seul, qu'il est vital de renforcer les organisations internationales. Ce n'est pas l'OMS, à mon sens, qui a failli, c'est le manque de volonté des gouvernements de lui donner des pouvoirs suffisants.
Dans le même ordre d'idée, Thierry de Montbriel, lorsque l'on évoque la transversalité, que ce soit sur les questions environnementales, sanitaires ou même, effectivement, comme vous le faites, de techniques informationnelles, on sait aussi que les mondes universitaires, les mondes de la recherche, ont rarement jusqu'ici valorisé la recherche ou la production transversale. On est très peu coté, on est très peu mis en position de carrière lorsque l'on pratique de l'édition ou de la recherche transversale et pluridisciplinaire.
Alors, vous avez tout à fait raison, et moi j'ai observé que le changement d'attitude à cet égard est relativement récent. Ce n'est que depuis 10-15 ans. Par exemple, si vous prenez une très grande institution comme le Collège de France, il y a 20 ans, et je vous parle en connaissance de cause, la notion de discipline transversale était considérée comme non scientifique par une institution comme le Collège de France. Maintenant, depuis ces dernières années, le Collège de France a créé plusieurs chaires sur des sujets éminemment transversaux, comme par exemple le climat, si vous voulez, qui tombe exactement dans cette catégorie. Pourquoi ? Parce que la transversalité, c'est lié à la complexité. La complexité, c'est l'incapacité, c'est l'impossibilité de maîtriser complètement, par une pensée systémique, si vous voulez, un problème. C'est un problème qu'on ne peut pas réduire à une organisation systémique à la Descartes, si vous voulez, où tout se tient, tous les éléments se tiennent les uns les autres, etc. La complexité, c'est toujours un flou. La complexité oblige à la transversalité. Et aucune personne individuelle ne peut maîtriser totalement un sujet complexe. C'est impossible. Par conséquent, au XXIe siècle, où tous les sujets sont imbriqués les uns avec les autres, nous nageons dans la complexité. Et donc, cette transversalité est indispensable. Mais remarquez qu'elle a un coût, parce que ça veut dire qu'aucune personne individuelle ne peut prétendre parler avec autorité tout seul d'un sujet complexe. Et c'est ce que nous avons vu depuis des mois. Nous avons vu tous ces médecins qui se succédaient à vos antennes, n'est-ce pas, en radio ou en télévision ou ailleurs, qui se contredisaient les uns les autres. Et je pense que cette manière d'aborder les sujets complexes est fâcheuse parce qu'elle sème le doute aussi dans les populations. Donc, comment parler, comment communiquer sur des sujets complexes, c'est une question à laquelle, je crois, nous avons tous, les uns et les autres, insuffisamment réfléchi.
Thierry de Montbriel, Ramsès 2021 ouvre bien sûr sur santé, climat, Covid-19 et maintenant, mais poursuit évidemment aussi son bilan récurrent de l'Europe. L'Europe dans la pandémie, l'Europe dans sa recherche de cohérence ou d'incohérence, une Europe bloquée, cette Europe est affaiblie aujourd'hui ?
Non, je ne dirais pas cela parce que le miracle de l'Europe, c'est que nous progressons. Là aussi, je reprends d'ailleurs un petit peu la même idée, si vous voulez, nous progressons toujours sur des crises. C'est-à-dire que c'est lorsque nous sommes au bord du gouffre que nous parvenons à nous mettre d'accord sur des mesures nécessaires pour survivre. Et quand on regarde en arrière, ça s'est toujours passé comme ça. Simplement, aujourd'hui, quand on est à 27, et si on augmente encore le nombre par la suite, plus nous sommes nombreux, plus il est difficile de nous mettre d'accord sur un sujet quelconque. Et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, n'importe qui, pour ses propres problèmes, peut bloquer n'importe quoi. Et donc, il y a un certain moment où chacun voit que si on reste bloqué, c'est l'Europe qui commence à se défaire. Mais l'Europe qui commence à se défaire, c'est ressenti par tous les membres comme une catastrophe. Par conséquent, c'est pour ça que c'est une véritable stratégie au bord du gouffre. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous remarquerez que depuis les élections au Parlement, les dernières élections au Parlement européen, dont on craignait vraiment le pire pour l'avenir de l'Europe, bien non seulement les élections elles-mêmes n'ont pas donné le résultat le plus mauvais qu'on pouvait craindre, la Commission a pu être formée avec des personnalités qui sont souvent des personnalités intéressantes et même certaines de premier plan, et on a pu commencer à agir, la Banque Centrale Européenne a commencé à agir, etc. Donc, non, je ne suis pas particulièrement pessimiste. Je pense que c'est le destin de l'Union européenne de se constituer de cette manière, avec évidemment un inconvénient, c'est que c'est lent. Et la capacité de l'Union européenne à répondre rapidement à des crises non anticipées ou insuffisamment anticipées, cette capacité est très faible. Et je crois d'ailleurs qu'un des grands problèmes qu'il y a aujourd'hui, d'une manière générale, c'est qu'on a du mal à faire de la bonne politique avec des échelles de temps très différentes. Et la vie est faite de questions qui ont des temps propres, comme disent les physiciens, qui sont différents. Mais l'Union européenne, si l'Union européenne commençait à se défaire réellement, chacun sent bien que ce serait une catastrophe, non seulement d'ailleurs pour l'Union européenne elle-même, mais pour le monde entier. Une catastrophe pour le monde entier. Et Ramsès, puisque vous avez la gentillesse de vous référer à Ramsès, on ne fait pas seulement le point de l'Europe. D'ailleurs, chaque année, on fait aussi un tour du monde. Et dans ce tour du monde, aujourd'hui, la question majeure, c'est évidemment la Chine, la confrontation sino-soviétique qui perdurera. Mais avec Joe Biden, le style va changer. Mais les bases de la confrontation sont là, elles sont durables. Et l'Union européenne va être en quelque sorte prise en sandwich entre les États-Unis et la Chine. Et il faudra que nous fassions preuve là aussi de beaucoup d'inventivité pour ne pas tomber dans l'escarcelle, si je puis dire, de l'un ou de l'autre.
On sait combien on se débat encore ces jours-ci pour savoir si Brexit il y aura et comment. On a entendu évoquer ces dernières années une Italie dépitée qui parlait éventuellement d'un Italexit, une Grèce dépitée qui parlait d'un ou d'autres qui parlait d'un Grexit. On a évoqué l'idée que Pologne ou Hongrie pourraient être sanctionnées et avoir l'envie de quitter, même si l'on voit bien que le Brexit n'a pas développé les possibilités pour tous d'en rêver. On sent bien que par contre, c'est devenu dans le vocabulaire politique une menace que l'on brandit souvent.
Je ne vois pas les choses de cette manière pour deux raisons. La première, c'est que le Français qui vous parle, qui se souvient et fait même plus que de se souvenir du général de Gaulle, pense que l'Angleterre, la Grande-Bretagne n'aurait jamais dû rentrer dans l'Union européenne. C'était la thèse de la France à l'époque, qui a été très, très critiquée par les pays qui pensaient qu'à l'époque, la France avait un poids trop important, ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. Donc, on soupçonnait la France de vouloir exercer un effet de domination sur ce qu'on appelait à l'époque la communauté européenne. Mais fondamentalement, la Grande-Bretagne n'a jamais adhéré vraiment à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Bon, le cas britannique est très spécial. Alors, évidemment, les autres pays peuvent essayer de jouer comme une sorte de menace, de chantage, en disant « s'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, on va se retirer de l'Union européenne ». Mais vous remarquerez que, par exemple, les Pays-Bas, qui flirtaient beaucoup avec cette idée avant même le Brexit, vous remarquerez qu'on a cessé d'en entendre parler dès le vote sur le Brexit. Et très franchement, quoi que disent M. Orban ou le président Duda ou les Kaczynski, etc., les pays comme la Pologne ou comme la Hongrie profitent tellement, ils ont tellement profité et profitent tellement de l'Union européenne que je ne peux pas imaginer un seul instant qu'ils en sortent. Et puis je crois qu'au-delà des petits combats des uns et des autres, si on réfléchit un tout petit peu sur le long terme, on voit que ce véritable multilatéralisme que représente la construction européenne, c'est même le modèle, un excellent modèle d'un multilatéralisme qui se construit au fil des ans et des décennies. C'est ça le modèle de l'avenir. Donc non, je pense qu'il y a là les jeux politiciens, on beugle contre les autres, on accuse Bruxelles de ceci ou de cela, mais au fond du fond, nous savons bien les uns et les autres que le retrait de l'Union européenne serait une impasse. Et c'est évidemment vrai pour l'Italie, la Grèce. Regardez la Grèce qui a voté, si je puis dire, pour l'euro. C'est tout à fait remarquable. Donc je crois qu'il ne faut pas être trop pessimiste à cet égard.
Dernier point à évoquer quand vous le faites dans ce tour du monde 2021, vous nous projetez évidemment dans les mondes arabes 10 ans après ce que l'on appelle maintenant le faux printemps arabe. Vous dites là, Covid et reprise en main font bon ménage, c'est renforcement de l'autoritarisme, c'est stabilité ou retour même des régimes que l'on croyait balayer, rien n'a bougé.
Alors, là encore, ça va tout dépendre comment on se place. Moi-même, je rédige les perspectives annuelles de Ramsès depuis près de 40 ans. Si vous avez la curiosité de vous reporter à ce que j'écrivais en 2010, en 2011, 2012, je n'ai jamais cru au printemps arabe. J'ai toujours pensé que c'était très mal nommé et que ça pouvait très mal finir. Et on pouvait faire déjà, d'ailleurs, des parallèles avec les révolutions en Europe, par exemple, de 1830, si vous voulez, 1848, les printemps des peuples, enfin tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et si vous voyez un pays comme l'Égypte, qui est très, très profondément divisé, extrêmement profondément divisé, le passage de la dictature de Moubarak à la domination des frères musulmans avec Morsi, qui avait d'ailleurs été encouragé par Obama, tout ça a conduit à une nouvelle catastrophe et a ramené à un régime autoritaire. Et je pense qu'on peut faire de l'idéologie, dire que, évidemment, un régime démocratique en Égypte, ce serait mieux qu'un régime autoritaire. Mais j'aimerais bien que quiconque me démontre la possibilité, en tout cas à court terme, de l'établissement d'un régime démocratique en Égypte, voyez-vous. Donc je crois que quand on fait de l'analyse un petit peu approfondie des situations, on se rend compte que les solutions toutes faites, les plats préparés, si j'ose dire, et il n'y a plus qu'à mettre au micro-ondes pour que ça marche, eh bien, ça n'est pas réaliste. J'ai toujours pensé d'ailleurs qu'il fallait être idéaliste à long terme, c'est-à-dire avoir une vision pour qu'on progresse, c'est pour être ça vaut aussi pour le climat d'ailleurs, et pour toutes sortes d'autres sujets, pour la santé, mais qu'il faut être extrêmement réaliste à court terme. Réaliste, c'est-à-dire voir la réalité en face.
Au bout du compte, en conclusion, la question que vous posez en titre de ce Ramsès 2021, avec donc un point d'interrogation, le grand basculement, est-ce qu'il a eu lieu ?
Alors, je crois qu'on est tous d'ailleurs assez d'accord là-dessus, enfin les gens qui réfléchissent un peu à ces questions, c'est-à-dire je pense que le Covid apparaît déjà comme un formidable accélérateur de changements qui étaient déjà en cours. Donc, ça veut dire que les changements, ils étaient là, simplement ils se précipitent. Alors, faut-il parler de basculement ? Et c'est pour ça que nous avons mis un point d'interrogation. Chacun va mettre un peu ce qu'il veut là-dedans. Mais ce qui est vrai, c'est que le monde change et il change à une vitesse incroyable. Quand vous songez, par exemple, que ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution digitale a commencé, on va dire, dans les années 60-70 du siècle dernier, et qu'elle est toujours en phase d'accélération, on n'a jamais vu une révolution technologique durer depuis un demi-siècle. Déjà, c'est une sorte de révolution technologique permanente depuis un demi-siècle, et qui non seulement est permanente, mais elle continue de s'accélérer. Donc c'est quelque chose d'absolument incroyable, comme, pour employer un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, inédit, totalement inédit dans l'histoire humaine. Et donc oui, on peut dire que le monde bascule maintenant. Dans 5 ans, est-ce que le monde sera à ce point différent de ce qu'il est aujourd'hui ? Ça dépend de la manière de voir les choses. Donc, j'ai envie de répondre oui et non.
Merci pour cette mise en perspective des grandes lignes que l'on retrouve évidemment développées dans cette édition Ramsès 2021 que vous publiez ou copubliez, bien sûr, Thierry de Montbrial, au titre de l'IFRI chez Duno. Merci de répondre régulièrement également à nos invitations.
Merci à vous.